Lizzie présente Tout sur l'économie ou presque, pour comprendre vraiment ce qui cloche dans le système. De Eureka, lu par Gilles Mito. L'économie est une affaire absolument politique. L'économie est une science particulière qui ne peut être déconnectée de la politique. Si le monde se résumait à un jeu d'échecs, la science économique aurait pour objectif la compréhension des stratégies et des techniques que les deux joueurs peuvent mettre en place. Après tout, les règles des échecs sont arbitraires. D'ailleurs, on peut aussi bien jouer aux dames sur un plateau d'échecs. Qui a dit que le pion ne pouvait se déplacer que d'une case vers l'avant, sauf depuis sa position initiale, où il peut avancer de deux cases? Qui a décidé que le fou ne se déplacerait qu'en diagonale? Pourquoi chaque joueur n'est-il autorisé qu'à jouer un seul coup par tour? Pourquoi pas deux ou trois coups avant de rendre la main à l'adversaire? Vous comprenez bien que, si l'on venait à changer ces règles, les différentes stratégies élaborées par les joueurs d'échecs devraient être profondément repensées. Le même constat s'applique à la science économique. Et si les entreprises ne cherchaient plus à faire le maximum de bénéfices? Et si l'on votait une loi pour fixer un bénéfice et un revenu maximal? Et si on mettait en place un contrôle des mouvements de capitaux? Et si les employés d'une entreprise partageaient le pouvoir de décision avec les actionnaires? Et si certains produits financiers étaient interdits? Et si l'État pouvait imprimer sa propre monnaie? Vous pensez d'ailleurs peut-être que c'est le cas. Approche positive versus approche normative. Le rôle de la science économique est de nous permettre de comprendre ce que ces nouvelles règles du jeu impliqueraient si on devait les mettre en place. On parle d'une approche positive. Il ne s'agit que d'expliquer l'économie. Cependant, le rôle de l'économiste se confond souvent avec celui du politique, dont le rôle est de proposer et de défendre une certaine idée de la société idéale, de la bonne manière d'organiser la vie et les règles au sein de la cité. On parle ici d'une approche normative. Il ne s'agit plus simplement d'expliquer, mais aussi de justifier et de défendre, via l'adoption de certaines règles, une certaine vision de la société. Prenez maintenant un économiste qui vient de mener une étude qui montre que la mise en place de telles règles permet, dans les régions observées, une augmentation moyenne de X% du PIB. Pourquoi avoir choisi d'étudier la mise en place de cette règle-là plutôt qu'une autre? Pourquoi s'intéresser à l'impact de la mise en application de cette règle sur le PIB? Pourquoi ne pas plutôt s'intéresser à l'évolution du bien-être de la population ou à l'évolution de la répartition des richesses? En sciences économiques, les sujets d'études et les critères d'évaluation qui permettent de tirer des conclusions relèvent de la sphère politique. L'approche positive n'existe pas ou est très largement minoritaire. Il s'agit d'étudier l'application, la modification ou la suppression de certaines règles selon une grille de lecture qui tient compte de certains paramètres et indicateurs. Or, le choix des règles et des paramètres à prendre en compte est un choix politique. L'économiste qui s'intéresse à la maximisation de la richesse créée par son pays plutôt qu'à sa répartition est déjà dans une démarche politique, en ce qu'il préjuge de la priorité à apporter à un critère plutôt qu'à un autre. Le déni de cette priorité donnée à tel ou tel critère constitue la grande arnaque du système capitaliste actuellement uniformément admis sur le globe. De la nécessité de comprendre l'économie pour ne plus se faire enfumer. Dans une démocratie, la définition d'une politique économique devrait être fixée ainsi. Le peuple donne son avis sur ce à quoi la société idéale devrait ressembler. Autrement dit, il donne son avis sur les indicateurs à maximiser. Puis, les économistes essaient différentes combinaisons de règles pour que l'organisation de la société, peu importe le nom qu'on lui donne, capitaliste, socialiste, marxiste, libéral, néolibéral, se rapproche le plus possible de ce que le peuple a voulu. La grande question est, comment s'assurer que les économistes font correctement leur travail? Lorsque la population exprime le souhait d'une économie sans chômage et que les économistes répondent en pointant du doigt l'augmentation de la croissance, ont-ils raison? Lorsque la population souhaite une augmentation du pouvoir d'achat des plus pauvres et que les économistes affirment que ce souhait est en contradiction avec le premier, qu'ils affirment que la réduction du chômage ne peut passer que par une réduction des salaires, sont-ils en train de nous enfumer? Existe-t-il des lois économiques naturelles, aussi inviolables que celles de la physique, contre lesquelles il est impossible d'aller? Y a-t-il des souhaits que les économistes, même en proposant des transformations profondes des règles de fonctionnement du système, ne pourront jamais exaucer? Autrement dit, où sont les véritables contraintes du système? Puisque les économistes ont eux-mêmes le droit d'exprimer des souhaits quant au fonctionnement de la société, comment faire la différence dans leur discours entre le positif et le normatif? La seule manière de répondre à ces questions est ardue mais simple. Il nous faut tous devenir économistes. J'ajouterai même qu'il nous faut aussi tous devenir financiers. Je suis bien conscient qu'au rang des disciplines qui ont la plus mauvaise réputation, l'économie se classe probablement parmi les premières, non loin de la finance et des mathématiques. Pourtant, je conçois ce livre audio comme ma modeste contribution à l'atteinte d'un objectif sans doute idéaliste, mais éminemment souhaitable pour nos démocraties, faire de chacun d'entre nous un citoyen capable de se représenter de manière relativement précise la façon dont fonctionne notre monde. En finir avec un mauvais réflexe, comprendre l'économie mondiale comme on perçoit sa gestion de compte perso. Attaquons sans plus attendre avec quelques clichés profondément ancrés dans la culture populaire et politique. Oui, les politiques sont très souvent nuls en économie. Pour pouvoir comprendre les chapitres qui suivent, il va falloir libérer votre esprit. Le bon sens veut que les dépenses d'un ménage ne dépassent jamais ses revenus. Il s'agit d'une règle de base que chacun de nous applique plus ou moins rigoureusement au quotidien. Si vos revenus sont de 2000 euros par mois, vous ne pouvez pas dépenser 2500 euros chaque mois. Ou alors, vous le pouvez momentanément parce que la banque vous autorise un découvert ou parce que vous avez mis de côté les mois précédents. Par analogie, on a vite fait de penser qu'un gouvernement doit tenir ses finances en ordre, comme tout un chacun. C'est le cliché du bon père de famille ou du bon gestionnaire. Pour que l'économie d'un pays fonctionne bien, les déficits doivent être exceptionnels. La dette doit être réduite à son minimum. Son utilisation doit se faire de manière précautionneuse. Et la population doit apprendre à ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Félicitations, votre gestion éclairée de l'économie va bientôt provoquer une crise financière majeure, à moins que vous ne viviez en Allemagne. L'Allemagne exploite en effet les déficits commerciaux de ses voisins, ce qui lui permet de donner l'impression que la solution du zéro déficit, zéro dette est viable. Or, cela ne se vérifie que si les partenaires commerciaux adoptent la solution opposée, déficit permanent, endettement. Lorsque vous raisonnez à l'échelle macro, c'est-à-dire à l'échelle d'un ensemble d'acteurs, par opposition à l'échelle micro, qui se focalise sur un acteur spécifique parmi d'autres, vous devez oublier ces automatismes de bonne gestion. Posez-vous la question. D'où viennent vos revenus si ce n'est des dépenses de quelqu'un d'autre? En macroéconomie, la règle la plus importante est « les dépenses des uns sont les revenus des autres ». Attention, la réciproque n'est pas vraie. Les revenus des uns ne sont pas les dépenses des autres. C'est le sujet de la première partie de ce livre audio. Imaginez une population dont les agents économiques, particuliers, entreprises et États, décident tous en même temps, de réduire leurs dépenses afin de maximiser leurs revenus. Que croyez-vous qu'il va se passer? Une partie des agents va constater que ses revenus diminuent. L'une des grandes injustices des crises est que ceux qui réduisent leurs dépenses ne sont pas forcément ceux dont les revenus diminuent. Cependant, parce que les revenus viennent toujours des dépenses, alors qu'encore une fois, la réciproque est fausse, l'augmentation des revenus ne peut venir que de l'augmentation des dépenses. Dès lors, qu'est-ce qu'une crise économique d'origine financière? C'est l'instant où suffisamment d'agents économiques, particuliers, entreprises et États, se persuadent qu'il faut qu'ils arrêtent d'appuyer sur la pédale des dépenses. Et c'est tout? C'est tout. Il est évidemment possible de rentrer dans une myriade de détails techniques afin d'expliquer pourquoi les agents finissent par se décider ou par être contraints d'agir ainsi. Et nous explorerons les principaux au cours de ce livre. Mais fondamentalement, il n'y a rien de plus à savoir que la crise se déclenche quand suffisamment d'agents, ou des agents suffisamment gros, ralentissent leurs dépenses, ce qui provoque une diminution des revenus. Cette loi macroéconomique peut se formuler un peu différemment. Les déficits des uns sont les bénéfices des autres. Par déficit, j'entends qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent, et par bénéfice, l'exact opposé, qui gagne plus que ce qu'ils dépensent. Peu importe que l'on parle de particuliers, d'entreprises ou d'États, il ne peut exister aucun agent économique bénéficiaire sans que d'autres agents choisissent d'être déficitaires. Autrement dit, si à votre niveau microéconomique, vous et vos proches êtes capables de mettre de l'argent de côté tous les mois, bénéficiaires, c'est parce que, quelque part, des entreprises, des particuliers ou des États s'endettent ou puisent dans leur épargne pour financer des dépenses supérieures à leurs revenus, déficit. Ainsi, le bon gestionnaire n'existe pas en macroéconomie. Il y a ceux qui dépensent et ceux qui gagnent, ceux qui sèment et ceux qui récoltent, ceux qui sont déficitaires et ceux qui sont excédentaires, ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens et ceux qui vivent en dessous. Et les places s'interchangent dans un système idéal. Ceux qui gagnent à un moment sont ceux qui perdent à un autre, en théorie du moins. Ce sont à chaque fois les deux faces d'une même pièce. L'une n'existe jamais sans l'autre. Vous pourriez penser que l'idéal serait d'arriver à un équilibre, et s'il y avait autant de dépenses que de revenus. C'est le cas au niveau mondial. Comptablement, la somme des dépenses mondiales correspond forcément à la somme des revenus mondiaux. En revanche, puisque notre système fait la promotion, au niveau micro, des agents économiques qui réalisent des bénéfices, il fait également la promotion de tous les autres qui font des déficits. Si chaque particulier, chaque entreprise ou chaque État gagnait exactement ce qu'il dépensait, ce serait la fin du capitalisme, puisqu'il n'y aurait plus de bénéfices, plus de profits. Serait-ce une mauvaise nouvelle? Vaste sujet qui mérite d'abord de bien comprendre ce qu'est le capitalisme. Ça tombe bien, c'est l'objectif de ce livre audio, En route.